Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes samedi soir au moment où l'antenne d'Europe 1 devient la vôtre. Car vous le savez, la Libre Antenne, c'est d'abord et avant tout une émission qui vous donne la parole. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Et pour la prendre, cette parole, il vous suffit d'appeler le 3921. Comme chaque week-end, Hassan et ce soir Geoffrey sont prêts à vous accueillir au standard d'Europe 1. La parole, c'est aussi cette petite voix intérieure qui nous accompagne souvent. Et qui n'est pas toujours des plus sympathiques. Vous savez, celle qui nous répète « t'es nul, t'es trop ceci, t'es pas assez cela ». Vous la connaissez bien, cette petite voix, n'est-ce pas? Et si, plutôt que de la laisser s'exprimer, pire encore, de la croire, on faisait un pas de côté pour la considérer simplement comme un écho et comprendre qu'elle ne fait que répéter des mots qu'elle a entendus? D'où viennent ces mots qui nous font mal? De nos parents, de nos proches, de nos patrons? Nous ne pouvons pas les empêcher de les dire ou les avoir dits. Mais nous pouvons fermer la porte pour ne plus en entendre l'écho. Et dans ce silence apaisant, écouter ce que nous sommes vraiment, celui ou celle d'avant les blessures. Cette voix-là qui a tellement envie de nous dire « tu as de la valeur, crois en toi ». C'est cette voix-là que j'aimerais vous aider à retrouver ce soir. Alors, quelle que soit votre histoire, quelle que soit la vie, quel que soit ce que la vie a mis sur votre chemin, appelez-moi au 3921 pour libérer les paroles positives. Vous le savez, vous pouvez aussi participer à notre émission par SMS en faisant le 739-21 et en commençant bien par le mot « nuit ». Des SMS pour apporter un soutien, une idée ou demander une mise en relation. Ce soir, à la réalisation, Andreas Papadian. Et puis je vous rappelle qu'une alerte enlèvement vient de tomber. Nous allons donc la passer ce soir toutes les 15 minutes, comme c'est la règle. Nous marquerons donc régulièrement une courte pause.
Laissez votre message à Sabine Marin au 739-21. 75 centimes, plus coût du SMS.
Et le premier appel que je prends ce soir, c'est celui de Nadia. Bonsoir à vous, Nadia.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci, Sabine.
Je vous écoute.
J'ai une fidèle de votre émission. Je comprends chaque soir.
Merci.
Et je vous remercie de m'avoir pris. Ça m'a eu la gentillesse de m'appeler. Voilà, c'est vrai que j'ai appelé assez tard pour un petit peu hésiter, puisque bon, depuis réellement, mercredi, je suis dans une situation très pénible.
Alors, racontez-moi ce qui vous arrive.
Alors, j'ai mon fils de 21 ans, qui est actuellement en cavale.
Ah.
À mon insu, sincèrement, je suis quelqu'un qui arrive de très loin, c'est-à-dire, j'ai déjà, ça me demandait tout à l'heure, est-ce que je suis déjà passée dans l'émission, oui, il y a quelques mois, pour soutenir les femmes battues, parce que j'ai eu un tunnel noir de 10 ans, j'ai bien survécu à 3 tentatives de meurtre, et j'ai élevé 3 enfants seuls pendant des années, jusqu'à l'heure actuelle, pour dire.
Alors, voilà. c'est ce que j'allais vous demander, Nadia, racontez-moi un petit peu votre histoire de famille avant qu'on parle de votre fils plus en détail.
Voilà, donc je me suis mariée avec un homme au bout de... Bon, on s'est désiré, on s'est fait... Enfin, moi, pour ma part, je pensais que ça reflétait mes valeurs.
Ouais.
Donc, c'est avec cet homme, voilà, qui avait pas grand-chose, pas de situation stable, bon, mais tout ça, pour moi, c'était... On pouvait s'en...
Ah, Nadia ? C'est bien ce que je craignais, je sentais que la communication n'était pas très bonne. Nadia, une fois, deux fois, trois fois ? Non. Bah écoutez, Andreas, on passe un peu de musique. Ouais, on passe un peu de musique, peut-être. Non, on passe à Marie direct. D'accord. Bon, on va prendre Marie et on va essayer Nadia de vous récupérer sur une ligne qui fonctionnera mieux. Marie, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, soyez bien.
Je suis un peu émue. Je suis désolée.
Puis, du coup, vous intervenez plus rapidement que prévu. Écoutez, c'est comme ça.
Oui.
C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. On va faire avec.
C'est ça, c'est dommage pour Nadia, je pense qu'elle avait beaucoup de choses à dire.
On va la récupérer, rassurez-vous, hein. On va la récupérer.
Oui, je m'en doute bien. Alors, je vais commencer tout doucement, déjà par le début. J'ai eu un premier mari pendant 16 ans qui m'a battue. J'ai rencontré le deuxième, c'était l'homme de ma vie, qui est malheureusement décédé après 9 mois de mariage d'une maladie. Et c'était vraiment l'homme parfait. Et suite à ça, je suis restée 12 ans toute seule, vraiment seule, sans personne. Et via un jeu, j'ai rencontré quelqu'un. Un jeu sur Internet, parce que je suis agoraphobe, je ne sors pas de chez moi. Donc, il n'y a vraiment que l'ordi qui me permet de...
Ah oui, un jeu en ligne, c'est ça, vous avez joué avec quelqu'un.
Oui,
ah,
c'est ça. D'accord. Oui.
Je croyais que vous aviez gagné une rencontre avec quelqu'un.
Non. Et donc, c'est vrai que, bon, étant agoraphobe, je passe beaucoup de temps sur les réseaux et tout ça. Donc, j'ai rencontré cette personne via ce biais-là. Et ça se passait très, très bien. Vraiment, on était très amoureux. Bon, il est plus jeune que moi.
Attendez, vous l'avez vu en vrai, quand même?
Je l'ai vu en vrai avant Noël, après 2 ans. 2 ans de virtuel, on s'est vu en vrai. Ça s'est très bien passé les 4 premiers jours. Il est parti parce qu'il devait rentrer chez lui et arrive même pas mi-chemin. Il m'a envoyé un message en me disant « Je peux pas partir, je reviens. »
Ah non, Marie ? Ah, j'ai fini par croire que c'est le standard. C'est nous qui avons un problème ce soir au standard. Qu'est-ce qu'on fait les garçons là du coup ? C'est moi qui vais être obligée de chanter une chanson si ça continue. Je suis pas sûre que ce soit un cadeau pour les auditeurs. Je suis désolée, mais Andreas, parle-moi. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, désolée, on fait une pause musicale, on passe un disque, on essaie d'aller chercher un réparateur du standard.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Alors désolée, c'est vrai que ça cafouille un peu ce soir au niveau du standard, mais on a appelé MacGyver, ça a l'air d'aller mieux. Marie, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Pourvu que ça dure.
On va espérer, oui.
Alors vous me disiez 2 ans de relation virtuelle. Au bout de 2 ans, vous voyez. Vous passez 4 jours, a priori, plutôt très agréables.
Magnifique. Vraiment un conte de fées.
Bon, il repart et à mi-chemin, il vous dit « Je ne peux pas partir, je reviens ».
Oui.
Bon, donc ça ressemble à de l'amour, ça.
Oui, il est resté 3 mois en tout. Mais il fallait quand même qu'il rentre pour régler ses papiers parce que, bon, on avait quand même l'intention d'avoir des projets ensemble. Bah, sauf que, comme je vous ai expliqué, depuis 1 an, il a quelqu'un d'autre qu'il a rencontré via le jeu aussi, mais qu'il n'a pas vu en réel. Il y parle juste virtuellement, mais bon, j'ai bien compris qu'en fait, il lui dit des mots tendres aussi. Donc, en fait, il nous fait espérer toutes les deux. Et je ne sais pas maintenant comment je dois prendre la chose. Comment... est-ce que je dois y croire ou plus ? Je ne sais plus. Je suis perdue. Totalement perdue. Et comme j'expliquais, dimanche, je l'ai complètement bloqué de partout. Parce que je ne voulais plus de contact avec lui. Parce que quand il a toujours besoin d'être rassuré. Et quand moi, je le demande un tout petit peu, parce que j'en ai quand même besoin, c'est je ne sais pas. Peut-être. Et voilà quoi. Donc, dimanche, ça a été le je ne sais pas de trop. Et j'ai tout coupé, je lui ai envoyé un SMS en lui disant c'était le je sais pas de trop, je te bloque, adieu. Je l'ai bloqué vraiment de partout, sauf sur le jeu parce que je l'avais pas en ami, donc je me souvenais pas de son pseudo de départ. Et hier il m'a demandé en ami et j'ai réfléchi, je voulais pas d'abord le reprendre, je l'ai fait quand même cet après-midi. Là, je le vois, il est connecté, il joue, mais il ne m'a pas adressé un mot. Alors, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que moi, je dois lui demander qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il m'a demandé en ami, ou je le bloque aussi, sans lui parler. Parce que le problème, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'à force, c'est devenu nocif, notre histoire. Elle me fait plus de mal qu'autre chose. j'ai quand même fait pas mal de tentatives de suicide parce que je me suis retrouvée de nouveau seule, abandonnée. Et j'ai la problématique de la peur de l'abandon. Et ça me fait terriblement mal d'être séparée de lui.
Et je crois que vous avez très très bien compris les choses, Maria.
Oui, j'ai très bien compris les choses. Mais j'ai du mal à me séparer de lui. Là, ça fait une semaine qu'on ne se parle plus. Je tiens bon grâce à des amis virtuels, effectivement, certains réels quand même. Deux très bonnes amies ici, en réel. Mais j'essaie de tenir bon. Mais j'y pense sans arrêt. C'est une obsession. Je rêve de lui, je me réveille, c'est à lui que je pense.
Ouais. Marie, le problème, c'est pas lui, c'est vous. Mais on marque une courte pause, si vous le permettez, et on continue cette conversation toutes les deux.
D'accord.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Marie, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Oui, ce que je vous disais, c'est que ce qui est intéressant ou important, c'est pas lui ce qu'il fait, ce qu'il dit, son comportement. C'est la manière dont vous fonctionnez. Parce que peu importe lui ou un autre, si c'est pas lui, il vous recommencerait avec un autre le même schéma de fonctionnement. Et vous savez, souvent je parle des différentes parties de soi, et là, chez vous, je trouve que l'exemple est assez parlant. Il y a vraiment deux parties en vous. Il y a une partie adulte qui a déjà la réponse à sa question. Vous l'avez déjà très bien exposé. Vous savez très bien qu'évidemment, il n'y a pas de suite. Évidemment. Que c'est un garçon complètement immature et qui joue avec vous comme il joue avec l'autre. Vous le savez très bien. Et il y a une partie de vous qui est restée bloquée à l'adolescence. Parce que votre comportement avec lui est le comportement d'une ado. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui vous a blessé dans cette période-là de votre vie pour que vous n'ayez pas grandi.
On ne sait pas, on cherche avec ma psy. Parce qu'effectivement, il est vrai que dans ma tête, j'ai pas mon âge. Dans ma tête, j'ai une vingtaine d'années. Je n'arrive pas à accepter mon âge, en fait. Je n'arrive pas à vieillir. Je n'accepte pas tout ça. Quand on me demande quel âge j'ai, je dis l'âge papier ou l'âge mental.
Et oui, le problème, c'est pas un problème d'âge, c'est un problème de maturité dans votre relation avec les hommes.
Mm-mm.
Parce que refuser de vieillir, pourquoi pas ? Mais refuser d'être mature, c'est plus embêtant.
Ben disons que j'ai été bloquée beaucoup par mon premier mari, en fait. C'est beaucoup ça qui m'a porté préjudice. Parce que, en fait, avec lui, je n'avais pas le droit de sortir. Je ne sortais jamais. Je restais à la maison et j'élevais les enfants. Je n'avais pas le droit de travailler. C'est lui qui faisait les courses. J'ai pas mis le nez dehors juste pour voir ma famille, mais encore avec lui. Sinon, j'avais pas le droit.
Vous êtes d'origine maghrébine ?
Non, pas du tout.
Ah non, parce que ça ressemble à une culture un peu différente.
Oui, mais non, il était sicilien, donc c'est un peu le même style.
Vous aviez quel âge quand vous l'avez épousé, ce monsieur ?
19 ans.
Ah, c'est ça, vous étiez toute bébé encore, toute petite.
Oui. Mais disons que je voulais partir de ma famille,
et alors,
de mes parents.
Justement, racontez-moi un petit peu comment était cette famille. Dans quelle ambiance vous avez grandi, vous ?
Alors, sans amour.
Et oui, voilà.
Jamais de câlin, jamais de bisous, jamais de mots tendres, jamais on m'a pris dans les bras. Par contre, j'avais tout ce que je voulais. Si je disais je veux un vélo, l'après-midi même, je rentrais de l'école, j'avais un vélo.
Et vous aviez tout ce qui n'a aucune valeur en réalité.
Voilà, c'est ça. Mais je n'ai jamais eu de câlin. Je n'ai jamais rien eu de ce genre. Mon père souvent disait, bon, je vais être un petit peu, j'aime pas trop dire ça, mais mon père disait, j'aurais mieux fait de chier dans le froc.
Il disait, pardon, j'ai pas compris l'expression.
Il a dit, j'aurais mieux fait de faire dans mon froc, au moins ça se lave.
Ouais, super. En dehors de l'élégance de la phrase, c'est d'une violence pour vous, ça.
Voilà. Et j'entendais ça régulièrement, et ma mère, c'était... c'est pas toi que je voulais, c'était un garçon. J'ai déjà trois filles.
Ah oui, donc vous cumulez
un garçon.
Vous cumulez la blessure d'abandon et la blessure de rejet en même temps.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça. Et voilà, donc j'ai grandi comme ça. Après, mon père était alcoolique. Et donc, moi, j'avais qu'une envie, c'était de partir de la maison. Mmh. Et puis, bon, j'ai rencontré lui. Voilà, je suis partie avec lui. Et ça m'a coûté à 18 ans ma première tentative de suicide.
Mais parce qu'inconsciemment, en réalité, vous êtes allé vous remettre dans un schéma où on vous maltraite.
Oui, tout à fait. J'ai été maltraitée pendant 16 ans et le déclic, ça a été mon fils. Quand il m'a vu pleurer, il m'a dit « Maman, si tu veux partir un jour, si tu veux quitter papa, oublie pas une chose, m'emmener avec. » Et ça, ça a été mon déclic. Je suis partie, je lui ai dit « Je demande le divorce parce que je peux plus vivre comme ça. » Et donc, je suis partie sans rien. Et puis, un jour, il est venu à 2h du matin. Il voulait que je descende. Heureusement que j'ai refusé parce que il a lacéré ma boîte aux lettres de coups de couteau. Si j'étais descendue, je ne serais plus là.
Ouais.
Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde virtuel, en fait. Parce que j'avais tellement peur de sortir parce qu'il me faisait suivre. Il savait exactement où j'étais. Il me téléphonait le soir, il me fait « t'as fait ça, t'étais là. » Et voilà. Et donc, mes parents m'avaient acheté un ordi et c'est comme ça que j'ai commencé le monde virtuel. Et mon deuxième mari, d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai rencontré.
Ouais. C'est là que vous avez commencé, mais en fait, la peur de l'autre et de l'extérieur, elle a commencé bien plus jeune déjà.
Oui.
Vous avez évidemment enregistré que tout ce qui vient à l'extérieur est potentiellement dangereux ou violent.
C'est ça, oui. Et ben, je suis agoraphobe et je suis bipolaire aussi. Et ça, c'est depuis toute petite, c'est pareil, c'est depuis toute petite. Sauf qu'à l'époque, à mon époque de jeunesse, c'était pas vraiment reconnu cette maladie-là, on n'en parlait pas. Mmh. Et voilà quoi, donc. Et puis mon premier mari, ben, ça n'a fait qu'accentuer les choses.
Mais oui, parce qu'il y a toujours en vous cette partie-là, cette petite fille qui n'arrive pas à grandir, parce qu'elle a désespérément besoin qu'on l'aime.
Oui,
et qu'on le lui dise, et qu'on l'accepte, et qu'on l'adopte, j'allais dire pratiquement. En tout cas, qu'on lui fasse une grosse, grosse place, mais avec plein d'amour autour.
C'est ça.
Et cette petite fille-là, elle continue à avoir un comportement de petite fille. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en déséquilibre. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie de vous plus mature, plus adulte, qui comprend bien que ça ne va pas, que ce n'est pas un schéma qui vous va.
Non, ce n'est pas du tout. Ça ne peut pas durer comme ça. Je veux dire, j'ai des valeurs, j'ai des principes. Et pour lui, toutes mes valeurs que j'avais, tous les principes que j'avais, j'ai tout mis de côté, en fait.
Mais, oui, dites-moi.
Parce que je n'accepte pas une chose, c'est le mensonge. Je préfère ne pas répondre à une question que de mentir. Et il le sait, et il m'a jamais menti. Et depuis qu'il a rencontré cette fille, il ne fait que ça.
Une fois de plus, Marie, peu importe ce que lui fait. Ce qui compte, c'est pourquoi vous acceptez les choses. Mais vous m'avez dit tout à l'heure, travailler avec votre psy. Alors, j'ai pas bien... Redites-moi, parce que vous me dites avoir compris qu'il y avait une blessure d'abandon. Et en même temps, vous me dites, avec ma psy, on n'a pas trouvé. Mais bien sûr que si, vous l'avez trouvé la cause. On vient d'en parler.
Oui, on a trouvé la cause, mais on est obligé d'y travailler. Mais elle m'a dit, c'est une démarche longue. Parce qu'elle date d'il y a tellement longtemps que ça sera long, très long. Donc, on y travaille, là. Mais il y a tellement d'autres problématiques que j'ai en moi qu'on ne sait plus où donner de la tête, en fait.
Oui, mais vous savez, moi, je dis souvent qu'il faut... C'est comme un entonnoir. Quand il y a un gros caillou qui bouche l'entonnoir, il y en a plein de petits au-dessus. Il faut d'abord enlever le gros. Et moi, il me semble que ce gros nœud-là, cette petite fille qui a tellement manqué d'amour et d'attention, c'est ça qu'il faut travailler en premier.
Oui, je pense.
Parce qu'aujourd'hui, encore face à un garçon qui, visiblement, n'est pas mature du tout et qui joue, quoi, qui continue à jouer avec vous comme il joue sur l'écran, il y a urgence à prendre la bonne distance.
Mais disons que pendant 2 ans, il était tellement parfait, tellement... C'était
mais Marie,
c'était
vraiment... c'est facile d'être parfait virtuellement.
Ouais, mais on était en vocal H24, en fait. Donc, je veux dire, c'est vrai que je le connais par cœur. Et pendant 2 ans, il était parfait, mais je dois avouer que depuis qu'il a rencontré cette personne, il a totalement changé. Je ne le reconnais pas. D'ailleurs, je lui ai dit, je ne te reconnais pas. Tu n'es plus le même.
Bah, peut-être, mais maintenant, une fois de plus, arrêtez de croire que tout ce qui est virtuel ressemble à la vraie vie. Ce n'est pas vrai. Même si on est en vocal, comme vous dites, même si on se parle, c'est très très loin de la vraie vie. Ça n'a rien à voir. Et ensuite, vous n'êtes pas la seule en lice, quoi, c'est tout.
Ouais.
Mais une fois de plus, peu importe, c'est pas ça qui compte. C'est pas comment lui se comporte, c'est comment vous acceptez ça et pourquoi vous l'acceptez. Alors que vous méritez bien mieux que ça.
Parce que, disons que pendant 12 ans, après l'essai de mon mari, j'ai été seule. mais vraiment ce qui s'appelle seul. Bien sûr, j'étais virtuellement en discussion avec d'autres personnes, mais discussion, je veux dire, par écrit. Et j'avais le silence total à la maison. Et quand je l'ai rencontré, lui, il n'y avait plus ce silence. Il y avait un échange, un partage, une voix.
Mais et là, je comprends, je l'ai plus. Si cette voix-là vous rend heureuse, soit, mais ce n'est pas le cas.
Non, ce n'est plus le cas. C'est ça, ce n'est plus le cas.
Ben voilà. Donc, quel est l'intérêt de continuer à vous faire du mal? Vous remplissez l'espace vide avec quelqu'un qui ne vous convient pas.
C'est vrai.
Mieux vaudrait remplir cet espace vide avec de l'amour pour vous-même. Travaillez sur ça. Et après, quand vous serez vraiment en harmonie avec vous-même, vous rencontrerez quelqu'un qui vous aimera vraiment. Il n'y a pas de secret. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne.
Oui, je m'en doute. Je sais bien. C'est juste que je voulais l'entendre. Je voulais l'entendre.
Elle
me l'a dit aussi, mais mes amis me le disent aussi. Mais c'est moi qui dois franchir le pas. Et c'est vrai qu'en le bloquant de partout, je ne l'ai franchi ce pas-là. Et je ne l'ai pas débloqué. J'avais dit que je ne le débloquerais pas. Bon, bien sûr, il m'a demandé un ami. J'ai accepté.
Ben voilà, c'est là où le bas blesse. C'est quand même que vous avez ouvert une petite porte à nouveau. Quoi.
Oui. Mais je vais le bloquer, il n'y a pas de souci.
Ça me paraît. Enfin, voilà. Mais une fois de plus, peu importe lui ou un autre, parce que même si vous le quittez lui, si vous ne travaillez pas sur ça, vous allez recommencer avec le prochain.
Mm-mm.
C'est comme si une partie de vous se disait, de toute façon, je ne mérite pas mieux. Or, si, vous méritez beaucoup mieux que ça.
Vous méritez... Oui, parce que j'ai eu beaucoup mieux.
Et puis même, de toute façon, vous méritez un homme qui s'intéresse à vous et uniquement à vous. Mm-mm. Et qui vous apporte une vraie présence et de l'amour, et pas qui joue comme ça et qui est complètement immature. Qui joue avec les sentiments de l'une de l'autre, qui peut, enfin, c'est n'importe quoi ça.
Oui, c'est clair. Non, mais c'est vrai que le grand amour, je l'ai connu et c'est quelque chose de magnifique.
Et voilà.
Mmh. D'accord.
Et une fois de plus, dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on croit mériter.
Mmh.
Alors, dites-vous vraiment que vous méritez autre chose.
Ouais. Ah. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il ne mérite pas. Ben, je vous remercie, Sabine, en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir pris à l'antenne. Et je vais le bloquer dès que je serai raccrochée.
Et surtout, dites-vous merci à vous-même, Marie, d'avoir le courage d'avancer sur ce chemin-là.
Oui, ben, j'ai souvent l'envie d'appeler suivant les écoutes des autres, parce que je me retrouve souvent dans certaines personnes. Et je n'ai jamais eu le courage. Mais là, j'en avais besoin. J'en avais vraiment besoin.
Bon, moi, je vous serre très très fort dans mes bras, Marie.
Merci.
Et j'espère que vous aurez la force d'avancer sur ce chemin-là qui va être un chemin de libération et qui va vous amener vers des relations plus heureuses quand même, comme vous
méritez. J'espère.
Hein,
j'espère.
Je vous embrasse.
Oui. Merci beaucoup. Au revoir, Sabine.
Au revoir, Marie.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Alors, je croise les doigts, mais si tout va bien, on a récupéré Nadia. Vous êtes là?
Oui, bonsoir.
Ah, ben bonsoir, je suis vraiment désolée. On va reprendre cette conversation au début.
C'est des choses qui arrivent.
Bon, alors redites-moi, vous aviez donc un fils de 21 ans qui visiblement fait des bêtises,
et c'est pas nouveau. Et depuis l'adolescence, depuis 13-14 ans, j'ai tout très bien pu gérer, du moins à cet âge. Je suis maman de 3 enfants. Alors je vous disais, on m'avait dit de parler du papa. Ben, au bout de 3 semaines, l'enfer a commencé. Il n'a cessé. Je l'ai fait cesser qu'après 10 ans d'enfer, c'est-à-dire la violence psychologique. Autant que je me souviens, excusez-moi Sabine, c'est que je vous ai appelé à un moment donné. Il y avait de la violence avec ce jeune.
Oui.
Et également, j'en ai fait part aussi. Ça avait trop. C'était pour intervenir auprès des femmes battues. J'avais apporté mon témoignage, mon soutien, réconfort à ces dames.
Mmh.
Voilà. Donc j'étais victime de violences conjugales extrêmes, physiques, psychologiques. Enfin, voilà,
alors que vos enfants étaient petits, c'est ça?
Petits, spectateurs de tout. Et j'avais même eu des coups de son pied du 43 sur mon ventre. Enfin, vraiment une catastrophe où il était Dieu, nous étions ses serviteurs, ses esclaves. Voilà, souvent la maman sans, la grande qui va abriter un petit peu dans la chambre les petits, une catastrophe, c'était Dieu, tout puissant. Au moins, il s'est cru. voilà, pendant 10 ans. Donc, et ensuite, ben, j'étais comment vous dire, surveillée de mes gestes et faits. Donc, après, ça a été c'était les formes, toutes, j'ai subi toutes les formes de violence, sans exagérer sur les choses. Donc, c'était l'humiliation, l'isolement, les crachats, voilà.
Il n'y avait personne pour vous aider à ce moment-là ?
Alors, autant je n'ai jamais eu de culpabilité parce que je ne voyais pas la chose normale. Deuxièmement, il m'a isolée. Troisièmement, on se pose des questions. Et puis, pour finir, ben, je me dis que c'est quand même pas normal. Comme une anesthésie, comme je ne sais pas. Et puis, à un moment donné, ben, je suis allée en cachette, téléphoner à mon assistant social qui m'a dit « il ne faut pas laisser faire », etc. « Vous n'avez pas d'enfant ». Ça a existé, vous avez un enfant, ça existe, vous avez le deuxième, n'en parlons pas, et le troisième en catastrophe. Mmh. Le deuxième aussi, celui qui, dont il est en question ce jour-là, ce jour, qui me pose vraiment problème avec la justice, donc celui-là a toujours entendu, ben, tu n'étais pas désiré.
Oui, oui. De toute pourquoi manière, forcément, que... si un jeune se comporte comme ça, c'est qu'il y a des grosses, grosses blessures.
Oui, oui. Alors souvent, il a entendu tu es un bâtard. Alors, j'ai 5 ans. Mon fils, notre histoire s'est suivie auprès de l'école, tout simplement. Un samedi matin, où il y avait école auparavant, les années y a passé. Donc, il fallait écrire un mot pour son papa. Il a écrit papa, virgule, je veux que tu viennes plus souvent, que tu sois moins violent, exactement comme je vous le dis. Mmh. Voilà. Et puis de là, ben c'était la goutte qui a fait déborder le vase. J'en ai fait part à sa maîtresse. Alors qu'au loin, nous étions déjà surveillés. Il m'a dit de quoi vous discutiez avec la maîtresse. Je lui ai dit que c'était sur les résultats. C'était mon intérêt aussi, mais j'ai camouflé un peu ce débat. Et puis après, quelques mois après, c'était des menaces. Des menaces que les gens me disaient de ne pas prendre vraiment
au sérieux.
Mot pour mot.
Quel genre de menace, par exemple ?
Eh bien, je vais t'éliminer.
Ah oui ?
Il ne faut pas divulguer. J'embaucherai quelqu'un qui est sans papier, comme ça, il n'y a aucune trace. Les enfants, nous sommes en France, ils pourront toujours être élevés autrement. Et je ne laisserai pas ta trace. Et des dames qui sont quand même... C'est des propos pénibles des personnes venant, puisque moi j'ai pris tout ça, puisque bon, plus ou moins, je faisais un petit peu comme ils voulaient, tout ça, bon d'accord, pour un peu évoluer la chose. Et je voyais que ça ne changeait pas, et à ce moment-là, il me dit, bon ben, je ne veux entendre rien à l'extérieur. Bon, et puis de là, ben, ça a commencé par une séparation de ma part, et puis j'ai roulé, tenez-vous bien, avec une voiture à 3 roues. Pendant 5 minutes. Heureusement, j'étais pas sur une trajectoire, sous les témoignages des gens en ville.
C'est pourquoi 3 roues ?
Voilà, parce que j'ai eu deux boulons dévissés, j'ai perdu ma roue en cours de route.
Ah, vous pensez que c'est lui ?
Ah, ben parce qu'à 1h du matin, il était dans mon quartier. Donc, il était au loin en train de fouiller la voiture à travers la vitre, il n'avait pas, puisqu'elle était fermée. J'ai alerté la police, la gendarmerie, qui m'ont dit, madame, il est 1h du matin, vous. Posez ce téléphone, on a d'autres urgences, on verra demain. Mmh. Voilà. Il a pris l'indice par la grande qui avait 10 ans à l'époque et qui lui a dit « Papa, maman, une réunion et puis nous mangeons à la cantine. » Donc, on voyait comme le coup. Je me suis dit « Peut-être que c'est lui, comme ça ne peut pas être lui. » Ok. 3 mois après, pendant le sommeil, j'ai quitté chez moi à pied et fait 3 kilomètres pour rejoindre le domicile des parents à pied sous une pluie battante, vous ne mettrez pas un chien dehors. Je suis arrivée en catastrophe. L'écho de sa voix, je l'ai encore quelque part. Oh, dans une rue, reviens, ce n'est qu'une crise, je ne recommencerai plus. Plus j'entendais, plus je courais. Mais je suis arrivée, trempe comme un chien, mais vivante. Et 6 mois après, c'était une strangulation pendant le sommeil. Il a tenté. Et à ce moment-là, j'avais le verrou où j'ai pu vite ouvrir et m'évader. Je suis allée dans un bar à tabac, j'ai appelé de l'aide, ma famille, mon frère est venu me chercher. Et puis là, ça y est, il n'y a plus de doute. Et puis, bon, après, les gendarmes, j'étais persécutée dans les magasins, j'étais insultée, humiliée. J'ai vu chez les gendarmes tous les jours, c'était récurrent, je les comprends, mais moi aussi, il faut me comprendre. Et 3 ans après, ça n'a pas cessé. J'ai pris ma plus belle plume et j'ai écrit à monsieur le procureur. Je n'ai eu réponse, Sabine, qu'après 4 ans.
Oui.
Un peu plus tard, je vais aller m'adresser à la gendarmerie pour une simple tâche administrative de carte grise. Tout le monde me reconnaît, tout le monde me dit que vous démonez, madame, mon Dieu, quel enfer. On ne peut que vous reconnaître et vous mettre, imaginez ce que vous avez subi. Comment avez-vous fait pour cesser les choses? Et j'ai dit, j'écris, monsieur le procureur. On m'écrira Dieu qu'à ses serviteurs. Ils m'ont dit, oui, vous avez bien fait. La réponse, qu'est-ce qu'il en est? 4 ans après, eh bien, ils m'ont dit, soyez très heureuse, puisque même il y en a qui ont écrit pendant 10 ans, n'ont jamais rien eu. Et là, monsieur le procureur m'a dit dans ce courrier que j'arrête d'aller nulle part. Je n'ai allé nulle part. Les enfants devront les retirer à l'école s'ils le souhaitent. Qu'il ne fait pas plus d'un pas devant chez moi, il n'a plus à y être, et qu'il va faire cesser le trouble. Et depuis, je commence à revivre, ce qui m'a permis de sortir de chez moi pour aller pendant 5 ans faire un travail tous les mercredis d'une manière très, très assidue de la violence conjugale et des séances très éprouvantes, ô combien douloureuses. Mais je les ai surmontées. J'ai protégé mes enfants. Tout s'en est allé, plus ou moins, mes enfants marqués, bien sûr. Voilà, j'ai fait des formations, j'ai rebondi sur les sorties extérieures, j'ai fait du sport, j'ai commencé à revivre et à renaître, pour dire. Et puis là, vers 14 ans, ben, l'enfance a été décrite pendant les 6e, l'école buissonnière. Il a été placé, puisque mes deux garçons ont reproduit le père.
Mais voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est le seul qui pose problème ou les autres sont compliqués aussi?
Oh, celui de 17 ans aussi estimé, hein. Il a du répondant et puis par moments il s'adressait à moi, physiquement.
Ben oui, forcément.
Le père, quand il est parti, il a bien laissé un message. Il a bien laissé un message en disant, il a évoqué le prénom de mon fils, il lui a dit, je n'y suis plus, maman ne veut plus que je reste. Oh combien c'est malheureux, il n'y a personne pour vous défendre. Mais je te propose ma place. C'était le véritable message. Voilà. Ensuite, alors à un moment donné, ça se passait bien entre 12, 13 ans et la 6e. C'est un enfant au bout de CM2 dont toutes les maîtresses sont venues me féliciter. Un garçon très curieux, qui aime les dinosaures, qui aime l'histoire. Mais alors, qu'est-ce qui pose des questions? Mais quelle curiosité saine et enrichissante. On ne s'inquiète pas pour lui. Je me suis endormie sur ce message, quelque part un peu soulagée, et l'enfer a commencé en 6e.
Qu'est-ce
par
qui
du cannabis.
Par des quoi?
Par des cannabis.
Ah, du cannabis,
dans les toilettes, prendre le véhicule du service. J'étais humiliée dans mon travail, à toujours qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver. Quelques coups de couteau par-ci, par-là, je ne sais pourquoi, sûrement dans le trafic. Et puis là, aujourd'hui...
Mais attendez, entre la 6e et aujourd'hui, quand il s'est passé quelques années quand même.
Oui, il s'est passé quelques années, il a été jusqu'en 3e. On me note dans son... Sabine, dans son carnet, dans son bilan, ben, c'est un enfant effacé. Il est triste, il n'est pas ouvert, il est brusque, il est impulsif.
Est-ce qu'il a été suivi par une pédopsie?
Il n'a jamais voulu, ça a été mon combat. Il m'a dit, si tu veux y aller, c'est toi la folle, c'est toi qui nous a maltraités, c'est toi qui as quelque part accepté cette situation, ferme-la, c'est toi qui nous a rendus comme ça.
Ouais.
Ensuite, c'est un garçon à la fois, je vous dirais Sabine, sincèrement, qui ne s'est jamais détaché de le cordon ombilical. Ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois, il est venu, il a insulté son petit frère de 17 ans, de tous les noms. Il lui a donné une gifle sous moi. Je lui ai dit, tu n'es pas chez toi, tu n'as pas le faire. Il m'a dit, il était en train de fumer. Je n'ai pas, j'en sais rien, fumer tout court. Et je lui ai dit, tu es l'exemple, pourquoi tu le frappes? Moi, tu discutes. L'autre n'a aucun répondant vers lui. Il est faible. Il a le sens, il le craint. Puis à un moment donné, il y a eu pendant 3 mois, il est revenu de chez son père. Bon, j'ai dit, je ne vais pas l'exclure, puisque chaque fois, il me disait, t'as côté de 2 enfants.
J'ai dit non, tu es mon fils biologique. Et mon fils, il m'a dit non, je ne suis pas ton fils, je te renie. Ok. Malgré ça, il est contradictoire à ses paroles, il est venu, il est resté 2 mois. Et puis, bon, là, on lui a dit, bon, si tu restes tranquille parmi nous, tu es autant considéré que les autres. Je te considère autant que les autres. Et puis là, ça a commencé, je fume le cannabis, j'ouvre la fenêtre pour que tu le sentes de la cuisine. Ça a été des mots vulgaires envers son frère. Ma fille qui va débarquer chez sa copine ne peut plus vivre ce coma, ce climat, pardon. Et à un moment donné, un déclic est venu un beau matin me disant « Je vais te faire un truc de fou. » Je me suis dit dans ma tête « Pourquoi subir ça ? Je n'en peux plus, 3 mois d'enfer, je ne peux plus. » J'ai fait la faute de l'accepter, alors que j'étais en commun accord avec la greffière et tout un travail derrière Sabine, c'est pas comme ça. Mais je suis mère avant tout, mais victime aussi. C'est dur, c'est de double peine. Et là, à un moment donné, il m'a pris mon téléphone, il a parlé à ses copains sur des bêtises, sur des rencontres, je n'en sais trop rien. Il lui dit, quand t'as fini, tu me le rends. Il te dit, s'il te plaît, ce qu'il n'a pas dit, il me l'a rendu. À un moment donné, j'ai appelé. 2 gendarmes sont intervenus. J'ai fait signe par la fenêtre. C'est-à-dire, chaque fois, il fuyait quand on venait le chercher. Il y a eu plusieurs interventions. Celle-ci. Ben je lui ai dit, j'entends par la fenêtre, un signe, vous vous taisez, vous parlez, vous montez discrètement, ne sonnez pas. Et ils se sont retrouvés nez à nez à lui.
Oui.
Menottes sur place. Le frère, que je n'ai pas prévenu parce qu'ils sont très complices de se contacter, il a hurlé, il tapait sur sa tête, il a fait une crise. J'ai appelé mon frère qui vient un peu voir la chose. Et ils l'ont sorti en short et en t-shirt sous la pluie. Et puis là, il me dit « Oh, maman, j'ai pas envie de retourner là-bas. » Parler de la prison qu'il a déjà fait 3 fois. Et je lui dis « Maintenant, tu m'appelles maman, qu'est-ce que j'étais tout à l'heure ?» Une ordure.
Oui,
une
oui.
Traînée. Ce sont ces termes. Ils l'ont pris. 24 heures, il est sorti. Et ensuite, de là, avec un commun accord et de la compréhension du travail, la greffière, la SPIP, m'ont convoqué à la maison de justice de ma commune, on a fait un travail que ce n'est pas pour le couvrir, mais il présente des troubles psychiatriques, du moins psychologiques. Et là, on m'a dit, Madame Bourri, j'ai montré son fascicule du CP, j'ai apporté, comme je suis en train de vous dire, et la greffière m'a dit, vous savez, j'ai un travail pas que de greffière, large, dans les prisons, dans les suicides, enfin, c'est un travail très large, très humain et très compréhensif, et elle m'a dit, on arrive à un commun accord avec la SPIP pour une injonction de soins. Ce que j'ai déposé à la gendarmerie. Et là, il est parti chez son père travailler. Un mois après, il revient. Toujours avenant. Un bisou. Et là, je n'ai pas su. Il y a quelques jours, je travaille.
Nadia, pardon Nadia, là, ça c'est un peu compliqué là. On va devoir faire une pause tout de suite pour les infos.
Oui.
Ne bougez pas, on reprend cette conversation dans un instant, s'il vous plaît. On va essayer d'avancer un petit peu. Hein. À tout de suite. Merci beaucoup.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
À passer ensemble et en direct sur cette libre antenne. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous appelez le 3921. Vous tomberez soit sur Hassan, soit sur Geoffrey. Ils sont au standard. Ils attendent vos appels et vous guideront ensuite jusqu'à moi. Pour intervenir par SMS, je vous rappelle que vous faites le 739-21 en commençant simplement par le mot nuit. Et par mail pour nous joindre, libreantenne en un seul mot, @europe1.fr.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Nadia, on va donc reprendre cette conversation. Allô ?
Oui.
Oui.
Oui, je vous en parle.
Donc ce fils depuis qu'il est adolescent, vous pose beaucoup, beaucoup de soucis. Vous avez pris sur vous de le dénoncer pour que la police vienne le chercher?
Oui.
C'est
oui,
ça
pour, oui, pour me sauver, parce que c'était une fois, c'était une véranda brisée, à deux reprises, deux vitres de voiture brisées sous mes yeux.
Oui, quand je tourne et que je ne vois pas.
Et donc, combien de fois dormir dehors?
Qu'est-ce qui se passe après? Donc, vous me dites qu'il le garde deux jours, mais après, il revient?
Rien. Bon, le procureur a le courrier par la greffière, avec moi en parallèle. Et puis là, aujourd'hui, là, vous savez, bon, dernièrement, il était depuis pendant 3 mois chez son père. Ils l'ont exigé, j'ai trouvé une feuille que j'ai su, parce qu'il n'en dit rien, une injonction de soins à ma demande. Comme je l'ai demandé, du moins, ça a été rien. Enfin, voilà, ça a été confirmé. Et voilà, une formation, enfin voilà, un suivi. Alors de là, il va chez son père récemment, il y a 3 mois, il travaille. Il me dit qu'il veut faire du sport. J'ai dit, je lui ai proposé en vacances, enfin un cadeau de Noël, pardon, de lui proposer de faire du sport à la salle, de l'inscrire. Pourquoi pas, il avait quelques petits outils. Je me suis dit, bon, c'est des jeunes, une salle de sport, c'est mieux peut-être pour lui. Alors, il m'a dit, non, je travaille avec papa, avec d'ailleurs, ça, il a retrouvé, il était fâché avec son père, donc d'une façon aussi, il s'est arrangé un peu avec son père. Donc, il travaille pendant 3 mois, tout va bien, il me rencontre, il me vient me rendre visite parce qu'il n'a jamais coupé le lien.
Nadia, j'aimerais qu'on avance un peu dans votre histoire, j'ai un peu de mal à comprendre où vous voulez en venir.
Et puis là, récemment, Sabine, ce qui s'est passé il y a une semaine, il est revenu avec une attelle, me disant « Maman, j'ai quelques jours de repos, je suis en maladie, je vais reprendre le travail avec papa. » Bon, je me suis dit, je ne vais pas l'exclure des autres frères et sœurs. Il est venu, moi je passe ma journée à travailler. Or, mercredi, j'arrive, je finis ma journée de travail, j'arrive, on sonne à la porte, je sors, et puis il y a 15-20 gendarmes qui débarquent chez moi. J'étais très choquée. Ils m'ont dit, madame, il est où? Il se cache où? Mais j'ai dit, qui, monsieur? Alors, il me dit, il y a un monsieur qui se serait évadé de la garde à vue et il était en lien avec votre fils. On voulait savoir, est-ce qu'il l'héberge? Qu'est-ce qu'il en est avec votre fils?
Ah, donc, c'était pas lui qui était recherché. Il était cherché pour complicité, là.
Voilà, quelque part, voilà ce que j'ai compris. Et maintenant, Sabine, jusqu'à ce jour, depuis mercredi, on a la fouille de 4, 5 à 6, voire à 6 gendarmes, tous les matins à 6 heures.
Mais il est où, votre fils?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je suis allée faire tout à l'heure, c'est signer la perquisition qu'a constatée ma fille, du cannabis, un peu de cocaïne, un vélo de 1 200 € électrique, et un petit couteau pour la coupe, une petite balance, et puis voilà. J'ai dit, mais monsieur, c'est sa chambre. J'ai fait confiance, je me suis fait avoir.
Mais de toute façon, il est majeur, votre fils, vous n'êtes pas responsable de ce qu'il fait.
Il a 21 ans, oui.
Ben oui.
21 ans. Mais ça a été retrouvé chez moi, c'est nous qu'on encaisse. Son frère de 17 ans, il est en internat. Il n'est pas rentré ce week-end, il est très choqué. Et à la fois, c'est son frère, il n'y peut rien. Ma fille déclenche de l'eczéma, elle a du mal à ouvrir ses yeux, ça m'inquiète. Moi, je ne mange plus, je vous jure, Sabine, je ne vis plus. Et je guette 6 heures du matin qu'on vienne me faire un tour dans la maison, avec des lampes.
Vous avez essayé de l'appeler, votre fils?
Je ne peux pas, je n'ai jamais eu son numéro ni son portable. Il n'a jamais voulu me donner un numéro où je pourrais le joindre. Bien avant cette situation, je précise. Voilà. Il tourne avec un portable, mais je n'ai pas le droit d'avoir
le numéro. Et donc là, la police continue à...
La gendarmerie tous les matins.
La gendarmerie à venir tous les matins.
Tous les matins. Ils m'ont montré tout à l'heure un mail, enfin une apparition à l'écran, si ce n'est pas arrangé, hein, du procureur qui donne l'ordre de faire la fouille tous les jours. Même son père est fouillé. Voilà ce que ma fille me l'a confirmé. Puisque je ne suis plus en contact avec le père. Puis moi, entre parenthèses, j'ai aussi un frère qui a été condamné à 20 ans de réclusion de criminel. Il a fait 14 ans, ils se sont trompés. Ils l'ont sorti au bout de 14 ans.
Ouais, là, c'est une autre histoire. Nadia, qu'est-ce que je peux faire
pour vous? C'est une autre histoire. Voilà, pour vous dire, je ne m'en sors pas. Moi, ce n'est pas les mêmes acteurs, mais c'est le même scénario. Voilà, donc je ne sais pas si c'est la malchance. Si je suis maudite, je ne comprends rien. Et je me démène et je n'ai pas de répit. Et j'ai pas de cerveau qui fait pause.
Est-ce que vous vous faites aider par un thérapeute?
Oui.
Ah ben alors.
Je suis dépassée. Faites confiance, accueillez-le. Ben voilà, on y est. Il y a 4 jours, je pense. Il y a 4 jours que ces choses ont été déposées, Sabine. Puisque sa sœur, il y a 5 jours, elle lui a fait sa chambre.
Je vous demande si vous êtes aidée par un thérapeute. Je n'ai pas compris votre réponse.
Oui, je suis aidée, oui.
C'est-à-dire
oui. Je vais voir une psychologue tous les 15 jours.
D'accord, donc vous êtes prise en charge par quelqu'un là, en ce moment?
Oui, je l'ai pris de ma propre initiative. C'était un besoin pour tenir au travail. Et au travail, je ne donne qu'une façade. Je suis en emploi précaire, je travaille depuis 2 ans en remplacement. Maintenant, on me prolonge mon contrat 1 an et on me dit, vous êtes un élément très précieux, vous avez d'excellentes relations, nous sommes très contents de vous, nous risquons même de vous faire un CDI dans un collège en tant qu'agent d'accueil, agent administratif.
Tant mieux, c'est une bonne nouvelle ça. Mais dites-moi, Nadia,
je ne tiens pas le coup, Sabine.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous là ce soir?
Comment je dois réagir? Parce que bon, chaque fois c'est pareil. Je fais confiance, je lui donne des chances à ce fils. Ça se retourne contre moi, soit avec des coups de poing, soit il me casse une épaule, soit il se passe quelque chose, soit voilà. Je suis une victime et je suis une mère. J'ai double peine.
Je sais bien, mais il me semble que la priorité là, c'est peut-être de changer les serrures et de l'empêcher de revenir.
C'est fait. Là, c'est moi qui l'ai accueilli, mais je lui ai dit, bon, je te fais confiance. La violence n'y était plus, il a complètement changé, fumé, il y avait la fumée à la maison. J'ai fait confiance, tout simplement. J'ai dit, je lui donne une chance.
Mais là, vous ne pouvez plus lui faire confiance pour l'instant.
Et j'ai peur que le... Bon, là, il aggrave son cas, il se défie à lui-même. Et je suis au milieu, voilà, je subis, c'est pas à moi. Je ne suis pas complice, ils ont bien compris le gendarme, ils me disent, on sait que ce que vous voulez quand même, madame. Voilà.
Non, je crois vraiment, l'urgence, Nadia, c'est de vous protéger, vraiment. D'arrêter de penser qu'il va changer, parce qu'il ne changera pas comme ça. D'arrêter de lui laisser une chance sur une chance sur une chance, puisque ça, il est extrêmement violent avec vous, et ça, c'est inacceptable.
Alors là, il ne veut pas se rendre. Bon, alors, il pense, j'en sais rien. Les gendarmes, tout à l'heure, m'ont dit, on comprend sa peur, qu'il a fait 3 fois de la prison. Il a peur d'y aller, d'encaisser à la place de ce jeune homme. Moi, la seule personne, il y a 5 ans, j'ai hébergé, c'était pour violence conjugale, une dame qui était sans domicile fixe et bénévolement. Mais après, madame, voilà, moi, Sabine, moi, je suis pas... Je subis, mais c'est pas moi. Je subis à travers mon fils, mais ce n'est pas moi.
Mais je sais
en attendant, j'encaisse. L'alimentation est chamboulée. C'est très dur. C'est extrêmement... Ma fille, elle fait une dépression. Elle perd carrément un câble. Donc voilà, elle est aussi agressive envers moi. Donc c'est un climat qui tourne autour de nous.
C'est pour ça que je vous dis...
Qu'est-ce qu'il va être quand il va se rendre? Comment va se passer la garde à vue? J'ai toujours peur que ce soit dramatique.
Je sais. C'est extrêmement difficile, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment vous faire aider par une thérapeute. Moi, je ne peux malheureusement pas faire grand-chose pour vous ce soir, Nadia, à part vous souhaitez beaucoup de courage pour subir tout ça et vous conseillez vraiment de vous protéger, vous, d'abord. Vous n'êtes pas responsable de tous ces gestes, hein, vraiment.
Vous voulez me faire rester mon fils,
Nadia. Je sais bien. Je sais bien que pour une maman, c'est extrêmement difficile.
J'ai tout fait.
Mais ce n'est pas parce que vous êtes maman qu'il faut tout accepter. C'est aussi parce que vous êtes maman qu'il vous doit du respect. Il ne faudra pas oublier ça.
Même ça, je n'ai pas de mes enfants et ça commence à me perdurer. Je me trouve comme une gourde. Je vous permets le mot. Il est faible. Au milieu. Par contre, quand il y a le seul pétrin, le père, il est dans la même commune. C'est moi qui ai alerté. Financièrement, physiquement, il faut venir à la minute même. Il faut venir demain dans les tribunaux. Je les suis dans les prisons. Je me suis épuisée financièrement, physiquement, moralement. Et en fin de compte, mes enfants s'éloignent de moi quelque part. On fait des bricoles, on te les jette à la figure.
Et oui, parce que dans toute cette violence, les choses n'ont pas été soignées, n'ont pas été réparées. Donc chacun se débat avec ses propres démons dans votre famille.
Dans lesquels, par exemple?
Pardon?
Comme lesquels, par exemple?
Toutes les violences dont vous me parlez, que vous avez subies avec votre mari, votre ex-mari et eux avec leur père, tout ça, ça n'a pas été soigné.
Une reproduction.
Ben oui.
Oui, mais la reproduction, j'y peux quoi? C'est pour moi, ça continue le même scénario, pas avec les mêmes acteurs. Ouais.
Nadia, je suis désolée, j'ai beaucoup, beaucoup d'appels ce soir, et là, on va devoir faire la pause pour l'alerte enlèvement. Préservez-vous, vous, et ne portez pas tout sur votre dos toute seule. C'est un adulte, votre fils, il est responsable de ses mouvements, de ses actes aussi. Le respect, c'est dans les deux sens. Vous avez fait beaucoup de choses pour lui, c'est à lui de vous respecter. S'il ne le fait pas, s'il ne le comprend pas, laissez la porte fermée.
D'accord.
Vous ne pouvez pas tout prendre sur vos épaules.
Merci.
D'accord.
D'accord. C'est très douloureux.
Je sais, Nadia, je compatis
d'accord,
du fond du cœur.
Beaucoup, ça.
Je sais que c'est difficile. Je vous embrasse très très fort.
Laissez votre message à Sabine Marin au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Et c'est Francine que j'accueille maintenant avec grand plaisir. Bonsoir Francine.
Bonsoir Sabine, merci de m'accueillir Sabine.
Je suis ravie, bonsoir à vous, bienvenue.
Ça fait vraiment plaisir, hein. Voilà.
Alors racontez-moi votre histoire.
Bah, écoutez, voilà, je suis dans l'émotion parce que j'ai même eu un choc moral et j'ai un médecin qui a une bonne capacité pour écouter ses patientes. Il m'a soignée à base d'homéopathie parce que j'avais vraiment un choc moral. Alors voilà ce dont il s'agit. Le 24 janvier, mon premier fiancé, qui a maintenant 90 ans, m'a appelé. Moi, j'ai 86 ans, parce qu'il avait mon numéro de téléphone par une cousine à qui il avait téléphoné pour un tout autre motif. Et il habite dans un département du centre de la France. Moi, je suis dans les Hauts-de-France. Et voilà, il téléphone donc à ma cousine pour lui présenter ses condoléances suite au décès de mon cousin. Et il lui dit, au fait, as-tu des nouvelles de Francine que j'ai bien connue? Et ma cousine lui dit, oui, on est toujours en rapport. Ah bon? Et bien écoute, quand tu la verras, dis-lui que je l'embrasse très fort et que je ne l'ai pas oublié. Et ma cousine lui propose mon numéro de téléphone, ce qui se fait. Une heure après, il m'appelle. Donc, émotion, retrouvailles prévues pour le 15 de ce mois-ci. Alors, je me méfie parce qu'il ne faut pas non plus que je tombe dans le fantasme. Mais la première chose que j'ai réalisée quand j'ai entendu sa voix, c'était quand il me prenait dans ses bras, j'avais 17 ans et lui 22. Il était très, très correct. On sentait qu'on aurait vite fait d'être amoureux tous les deux. C'était une belle histoire.
Ouais.
Et voilà que ma mère... quand elle me voyait avec lui, par exemple, c'était sur le trottoir du village, je lui disais au revoir, je l'embrassais, mais pas d'une façon sensuelle comme on peut faire après quand on est adulte, mais c'était très gentil et très sincère. Et ma mère sortait, elle passait la tête à la porte et elle disait « vicieuse, vous conduisez comme des... » Enfin, elle disait des mots. Et puis, elle n'était pas gentille du tout. Et voilà que Lucien ne vient plus. Alors, je pleurais. Ma mère me disait « Tu pleures, tu chiales, va dans ta chambre et tout. » Mais j'étais désespérée. Et ma mère m'a envoyée chez une tante dans les Hauts-de-Seine pour m'éloigner, enfin, son but à elle, je ne sais pas ce qu'il était, mais en tout cas...
C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui ne lui plaisait pas, cette mère-là, cette maman?
Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui ne lui plaisait pas. Alors, Lucien n'est plus venu, et vous ne savez pas ce qu'elle a fait? Elle est allée le voir à son travail, elle lui a dit, si tu continues de voir ma fille, je te dénonce pour détournement de mineur. Elle est allée voir le père de mon fiancé, qui lui travaillait à la PJ. Elle lui a dit, si votre fils continue de venir voir ma fille, je porte plainte, comme elle a dit là, pour détournement de mineur, et vous aurez des ennuis à votre travail, parce que lui, il était à la PJ, dans une section, je ne sais plus le nom. Alors, tout le monde a eu peur, tout le monde avait peur de ma mère. Elle réussissait toujours ses coups comme ça, voilà. Alors bon, après j'ai connu mon mari à presque 20 ans, bref, la vie a passé.
Mm-hmm.
Mais ça, je ne le savais pas. Et là, le 24 janvier, Lucien me dit, tu sais, je ne t'ai jamais oublié, mais j'en veux vraiment à ta mère, mais je lui demande pourquoi. Et voilà, là, depuis le 24 seulement, je sais ce qui nous est arrivé.
Ah, vous ne saviez pas à l'époque?
Non.
Vous aviez pensé qu'il avait disparu comme ça sans raison?
Qu'il ne m'aimait plus, voilà.
Ah, d'accord.
Ah ouais, alors j'ai dit, Lucien ne m'aime plus. Alors, je n'ai pas eu d'amoureux avant 20 ans, quand j'ai connu mon mari. Vous savez, la jeunesse, c'est une belle chose, c'est un fait, mais là, j'étais quand même un peu éteinte. j'en revenais pas, puis il me prenait dans ses bras, il me mettait contre sa poitrine et il fermait les deux pans de son gilet sur moi, bien au chaud. Vous voyez, tous des petits trucs. Alors, quand il m'a appelé, là, le 24, la première image qui m'est venue à l'idée, c'est moi contre sa poitrine et je sentais son odeur. Son métier, c'était mécano. Et même au niveau olfactif, il m'est revenu quelque chose.
Il y avait ce souvenir-là. Dites-moi, Francine, pendant toutes ces années, est-ce que vous pensiez à lui
de temps, oui, de j'ai temps pensé en temps. À lui, bien sûr. Ouais. Bien sûr que j'ai pensé à lui plusieurs fois dans ma vie, à des occasions différentes. Nous étions connus aussi grâce au vélo, le sport cycliste. Alors moi, j'ai continué à faire du vélo, à faire des petits trucs sportifs comme ça en dilettante. Et souvent, ça me ramenait à lui. Mais pas, j'étais pas fidèle à mon époux, c'est pas ça. Mais c'était toujours sous-jacent. Bon, et voilà. Et alors là, le 24, quand il m'a dit ça, ça m'a ramené à la maltraitance de ma mère, parce que il y a eu maltraitance. Et bon, là, franchement, c'est une aventure incroyable. Il y a 68 ans qu'on ne s'est pas vu.
Ah, c'est fou.
Et voilà.
Et alors lui, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 68 ans? Quelle a été sa vie? Vous a raconté un peu?
Pas beaucoup, non. On n'en a pas tellement parlé. Il m'a dit, j'ai un fils, j'ai été mariée, mon épouse est décédée, j'ai une amie après, mais on s'en dira plus.
Alors il m'appelle ma chérie.
Il dit, ma chérie, on s'en dira plus quand on se rencontrera. Alors, tout à l'heure, pareil, je l'appelle
Francine,
le matin,
Francine,
il m'appelle le soir.
Pardonnez-moi, il faut absolument que je marque une pause. On s'arrête et on reprend la conversation dans une minute.
Avec plaisir, ma grande.
Merci à vous. Voilà, pardonnez-moi Francine, je vous ai coupé dans votre élan. Vous me disiez qu'il vous a dit l'essentiel.
C'est prioritaire, cette pauvre histoire. Hein.
Ah oui, bien sûr.
Oh là là.
Il vous a dit en tout cas quelque chose d'important, si j'ai bien entendu, c'est qu'il est libre.
Ah oui, oui, oui.
Et vous
ah
aussi.
Oui. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, il est libre et il m'a dit, si j'avais, parce que mon mari est décédé, malheureusement, le 30 septembre 2017, et par exemple, aujourd'hui, Lucien me dit je ne savais pas que tu étais veuve, malgré tout le respect que je dois avoir pour ton époux, j'aurais dû t'appeler avant, mais je ne le savais pas. Vous voyez ? Mais il m'a dit, si tu étais mariée, jamais je ne t'aurais recontacté. Voilà.
C'est élégant de sa part, en tout cas.
Ah oui, c'est très élégant. Cela dit, il me dit, tu sais, on n'est plus du premier âge. Hein, il dit, j'ai hâte de te serrer dans mes bras, évidemment. Mais bon, il sous-entend que nous sommes âgés et que nous nous embornerons.
Non, 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 vous n'êtes pas âgée, Francine. Vous êtes juste plus jeune depuis plus longtemps que les autres.
Pardon ?
Vous n'êtes pas âgée, vous êtes jeune depuis plus longtemps que les autres.
Oui, on peut dire ça comme ça, voilà.
Comment vous l'imaginez alors, physiquement, du coup ?
Pardon ?
Comment est-ce que vous l'imaginez physiquement ?
Comment je l'imagine ? Eh bien, je l'imagine... Alors, je reste un peu sur son image et nous avons échangé des banalités sur notre façon de vieillir, sur notre physique, plus ou moins. Et il me dit, oh, ben moi, j'ai pas pris de poids, je suis content. Bon, j'ai des cheveux blancs, c'est ta fête, etc. Alors, je l'imagine comme il était assez grand. Bon, étant vieux, en vieillissant, il est évident qu'on se tasse, mais je l'imagine assez favorablement, dirons-nous.
Bon.
Mais, voyez-vous, j'étais partie dans un fantasme un petit peu ennuyeux, je trouvais, parce que le fantasme, c'est bien, ça peut aider, mais il faut se méfier, parce que si on retombe du fantasme dans la réalité, ça peut aussi être choquant.
Alors, c'est quoi ce fantasme, Francine ?
Alors, mon fantasme, c'est moi dans ses bras, comme quand vous étiez la dernière image dont je vous ai parlé, contre lui, mm-hmm. avec son vêtement qui se ferme sur moi, et l'odeur, et voilà, il m'embrassait sur les cheveux, et ça, il est évident que ça m'aide, mais il faut aussi penser que là, dans quelques jours, je vais me trouver devant un monsieur de 90 ans, qui sera plus celui que j'ai connu. Voilà.
Hein? À l'intérieur, certainement encore, mais à l'extérieur, non, c'est forcément quelqu'un d'autre. Mais vous aussi, voilà. Vous avez changé, grandi, évolué.
Oui, oui. Mais à l'intérieur, il est tout à fait vrai que je ressens la... j'allais dire la même pureté que lorsque nous étions jeunes. Les mêmes beaux sentiments. Mmh. Et quand j'entends « Il m'appelle ma chérie », et quand j'entends ça, j'ai une grande, grande confiance en lui. Voilà. Et j'ai hâte de le voir. Hein. Je le vois le 15, Sabine.
J'imagine, c'est une belle histoire. Mais dites-moi, Francine, au-delà de, ces retrouvailles et de ce câlin que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez de cette histoire maintenant ?
Eh bien, écoutez, j'y ai pensé. Une kilomètre nous sépare. Je ne sais pas. Parce que j'espère le voir souvent. Parce que, évidemment, j'en reviens au fantasme. J'en reviens à l'imaginaire. Mais ça ne me plairait plus du tout de ne plus voir jamais. Voilà. Je crois que ça me ferait souffrir.
Bah, il faut espérer que si la vie l'a remis sur votre chemin, c'est que vous avez peut-être encore un petit peu de route à faire ensemble.
Oui, oui, j'ai pensé que le destin, ce n'était pas par hasard qu'il nous avait réunis. Voilà, c'est ça que j'ai pensé. Alors, ça me fait énormément de bien d'en parler avec quelqu'un parce que j'ai des relations, je suis même quelqu'un de très, 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 très entouré. Si vous saviez comme je suis entourée, il y a plein de gens gentils avec moi. C'est incroyable le monde de gens, le nombre de gens gentils avec moi.
Mais ça ne m'étonne pas, Francine, parce que vous avez l'air adorable.
Bah, ils ne sont pas toujours collés à mes basques, mais voyez-vous, j'habite la campagne, je vais marcher, j'ai encore la santé de faire mon heure de marche en principe tous les jours. Eh bien, quand je suis sur la route, une voiture qui arrête. Francine, tu veux qu'on t'emmène ? Ça va ? Es-tu fatiguée ? Non, merci. C'est tout. Des coups de fil. Mais écoutez, je bénis le destin d'être généreux comme ça avec moi. C'est inimaginable. Inimaginable. Par contre, je n'en parle à personne de cette belle histoire. C'est pas que je ne veux pas en parler, mais c'est intime. Voilà, c'est pour ça que ça me semble bon d'en parler avec vous. Mais vous vous rendez compte, Sabine, j'ai l'air d'une midinette.
Mais je trouve ça formidable. Que la vie vous offre cette chance de revivre des émotions d'adolescente, de jeune fille, c'est un beau cadeau. Hein.
Oh là 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 là, oui, c'est un cadeau.
On a Jean-Philippe, qui a envoyé un message, un SMS en disant « Voilà, enfin un amour bien réel, sans oui. Wi-Fi, sans écran, soyez heureux », vous dit Jean-Philippe.
Oh, c'est trop gentil, ça. Puis, voyez-vous, c'est partagé avec vous, avec des inconnus qui prennent la peine d'envoyer un SMS. Ça me fait beaucoup de bien. Hein.
Ça nous
Demain, je vais vous dire, tu sais, j'ai parlé de notre histoire sur l'antenne. Il va, qu'est-ce que tu as fait là ? Je vais taquiner un petit peu. Mais vous savez, franchement, c'est incroyable. Alors, ce qui m'a fait mal, quand j'ai parce qu'il m'a appelé, il m'a dit mon prénom, il a éclaté en sanglots. Moi, j'ai pleuré, les larmes coulaient toutes seules. Et après, on s'est remis d'aplomb. Mmh. Et quand il m'a parlé de ma mère, j'étais... D'ailleurs, mon médecin m'a dit « Vous avez subi un choc moral. » Moi qui suis calme et plutôt détendue, j'étais pas énervée. J'étais agacée. J'étais vraiment... Mais je suis revenue à ma mère et j'ai dit « Pourquoi elle m'a fait ça ?»
Ouais,
ça
vous rendez compte 68 ans plus tard qu'elle vous a manipulée, quoi.
Oui. Alors, ouais. Donc... Mais ma mère était quelqu'un de très spécial. Ce que je vous dis là, l'image que je vous présente de ma mère là, vous pouvez multiplier par 1000. Hein. Donc, je vais au cimetière et je vais me recueillir sur à l'urne de mon époux. Après, je vais sur mes parents. Et maman est enterrée avec mon beau-père, une crème. Donc, je vais sur la tombe de ma mère, mon beau-père et de ma petite nièce. Je me signe et je prie. Et tout à coup, je dis « Ah, j'ai prié pour toi !» Comme ça, je me suis exprimée à haute voix. Mmh. Quelqu'un était derrière, aurait dit « Francine, elle est carrément ma boule, j'ai parlé toute seule. » Mais non, c'est parti. J'ai dit « Ah, j'ai prié pour toi !» Sous-entendu, tu ne le mérites pas. Bon, après, j'ai dit « Bon, on règle pas ses comptes avec tes morts. » Mais vous, quand même, c'est incroyable, incroyable.
Non, si,
alors,
si,
là,
si,
voilà,
Francine,
on va se revoir le 15.
Francine, on peut régler ses comptes avec les morts, justement.
Ah oui, mais c'est pas très courageux.
En osant. Bah, si vous croyez que ce qu'elle a fait, c'était très courageux?
Ah ben, pas du tout.
Donc, vous avez tout à fait le droit d'exprimer, même aujourd'hui, votre colère contre elle. Hein. Bien sûr, vous avez le droit. Mais en tout cas, la vie vous avez
une
date.
Elle m'a bien dit, tu sais, j'ai pleuré. Je pleurais dans mon lit. Il dit, j'avais envie de me cogner la tête sur l'atelier où je travaillais. Et voilà. Et il a eu peur parce qu'il savait, très bien que je l'aimais. Et bon, après, on dit, si on avait fait notre vie ensemble, est-il certain que nous ayons réussi? Peut-être pas. Mais là, on est resté sur un doute, sur une souffrance. Hein?
Oui, mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que l'amour est intact après tant d'années, quoi.
Ah oui.
L'émotion est là encore, c'est incroyable.
Vous savez, comment vous dire? Je vous parle là, et ben j'ai un sourire jusqu'aux oreilles.
Mais ça s'entend, on sent même qu'il y a les petits papillons dans le ventre. Hein.
Comment?
Les petits papillons dans le ventre.
Oh là là, c'est fou. Alors voilà, tout ce que je voulais vous dire, ma grande. Voilà.
C'est mignon. On a Anne qui envoie un message en disant « Magnifique, on pensera bien à vous deux le 15 ».
Ah là là, oh, c'est pas vrai ça. Ah ben vous remerciez de tout cœur. Hein. Voilà. Bon, eh bien j'embrasse tout le monde. Remerciez votre assistant qui a été très gentil, très patient. Et puis Sabine, merci pour l'écoute. Hein.
Francine, je suis de tout cœur avec vous et moi aussi je penserai à vous le 15. On a encore un dernier message. Corinne qui nous dit tout le bonheur du monde à Francine et à son amoureux. Longue et très belle nouvelle de vie, de cœur à tous les deux.
Oh là là, vous savez quoi Sabine? J'ai les larmes qui coulent là.
C'est des larmes de bonheur, j'espère.
Ah, oui.
Vous êtes formidable, Francine. Merci d'avoir partagé cet amour-là avec nous.
Eh ben,
merci.
Je voulais le partager, comme je sais qu'il y a des auditeurs, voilà, la France entière sait que j'ai retrouvé mon amour.
Je vous souhaite plein de merveilleux moments, Francine.
Merci beaucoup.
Et je vous embrasse très fort.
Au revoir, ma grande. Merci encore.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Et avant de prendre David en ligne, Francine, si vous êtes encore à l'écoute de notre émission, je voudrais vous dire que depuis votre témoignage, nous avons un déferlement de SMS. Vous avez touché beaucoup de monde et je voudrais vous lire ce dernier SMS qui dit « Francine, vous êtes une dame exquise. Je ne vous connais pas, mais je vous adore. Beaucoup de bonheur. » Voilà, je crois que ça résume assez bien ce que tout le monde pense ce soir de vous. On vous embrasse très très fort, Francine. Bonsoir à vous, David.
Bonsoir, Sabine. Moi aussi, du coup, je voudrais bien saluer le témoignage assez exceptionnel de Francine, qui, je crois, est un beau message d'espoir pour nous tous.
Oui. Alors, à nous.
Bien. En fait, moi, je vous appelle pour réagir à une conversation que vous avez eue avec une auditrice d'hier soir. Je crois que c'était Audrey, si je ne me trompe pas. Et qui souffrait de déséquilibre, de vertige, dont on ne connaissait pas très bien l'origine, mais dont certains médecins avaient pu dire qu'il s'agissait de stress.
De stress, et devenu hypochondriaque aussi.
Voilà, c'est ça, un peu devenu hypochondriaque, en tout cas des maladies psychosomatiques, comme on dit.
Qu'on entretient soi-même, en fait.
Oui, et un diagnostic qu'elle n'acceptait pas trop, puisque pour elle, le stress correspondait plutôt à quelque chose comme du trac, avec le cœur qui bat, le souffle court, l'estomac noué. Enfin bon, en tout cas, si je me souviens bien, voilà, pour elle, ça ne pouvait pas tout à fait être ça. Enfin, en tout cas, elle ne l'entendait pas. Et si j'ai voulu réagir, c'est parce que, en fait, son histoire, sur de très nombreux points, m'a rappelé la mienne, il y a une quinzaine d'années. J'ai voulu la partager juste pour aussi, même ce sera peut-être pas un message d'espoir aussi beau que celui de Francine, mais en tout cas, juste pour dire qu'on peut s'en sortir. Alors, j'ai pas de truc magique à partager, hein, pas du tout, mais en tout cas, je peux vous raconter ce qui m'est arrivé à moi.
Comment ça a commencé alors avec vous?
Déjà, je ne suis pas quelqu'un de malade dans ma jeunesse, j'étais plutôt un jeune bien portant. Et ça a commencé lorsque j'ai quitté le cocon familial et que je suis arrivé seul à Paris pour faire mes études. Ça a commencé en fait par des douleurs au ventre. Donc c'était pas du vertige me concernant, mais plutôt des douleurs au ventre, toujours très localisées, extrêmement localisées au même point, exactement au même point sous le nombril. qui, au début, bon, bah, c'était avoir mal au ventre. On ne s'inquiète pas spécialement d'avoir mal au ventre, on vit avec, et puis c'est tout. Et ça a pu devenir petit à petit, au fil des mois et des années. C'est quelque chose qui s'est étalé sur 4-5 ans quand même.
Oui.
Ça a commencé à devenir de plus en plus embêtant, notamment par le fait que je n'arrivais plus à dormir. Alors, ça n'arrivait que très rarement, une fois tous les mois ou tous les deux mois, peut-être tous les trois mois. Bon, au début, donc, c'était quelque chose avec lequel je pouvais vivre, mais effectivement, je n'arrivais plus à dormir. Donc, et je faisais, d'ailleurs, ça aussi, ça m'a rappelé ce que votre conversation d'hier. J'essayais de distraire un peu de mon esprit,
le
de
cerveau,
pas y penser.
Occuper le cerveau pour qu'il ait
donc, exactement. Et ce que je faisais, bon, moi, ça m'aidait. C'est pas du tout que je le recommande particulièrement, mais je marchais la nuit seul dans Paris. J'ai fait des marches, j'ai traversé Paris en long, en large, en travers, juste pour calmer ces douleurs et réussir à dormir. Bon, cette chose a continué à devenir de plus en plus fréquente, jusqu'à en fait qu'elle me pourrisse grosso modo une année d'études. C'est-à-dire que durant un semestre, ça arrivait tellement fréquemment que je faisais une préparation concours à cette époque-là, et en fait pendant un semestre, bah, finalement je n'ai plus étudié, puisque les rares moments où j'allais bien, j'avais raté tellement de cours que je n'avais plus le courage d'essayer de rattraper, j'avais plus le courage d'essayer de travailler. Enfin, ça devenait vraiment un problème infernal, et qui m'a fait rater grosso modo une année d'études. Évidemment les concours dans la foulée, puisque je ne les ai pas présentés, ou ceux que j'ai présentés, je ne les ai pas réussi. Donc ça avait quand même eu un impact sur ma vie. Et effectivement, là aussi, je me reconnais beaucoup dans ce qu'elle a décrit, à savoir que j'ai fait un parcours médical compliqué, j'ai essayé plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail des examens, analyses, médicaments, dérivés morphiniques et autres qu'on a pu me donner. Enfin, mais bon, ça, sur un certain temps, on a essayé tout ce qu'on a pu pour trouver les causes de ça sans succès.
Oui, puisque... est-ce que vous aussi, vous avez craint quelque chose de vraiment grave ?
Bien sûr,
oui.
Bien sûr. Surtout sur la faim. Et je dois dire aussi que, comme elle, vous lui avez posé la question de savoir si ça ne la faisait pas se sentir bien d'aller chez le médecin. Et si, moi j'ai eu ce sentiment aussi, une fois dans une salle d'attente, de me dire en fait,
on s'occupe de
c'est
moi.
Pas si mal.
Oui, ouais, c'est ça qu'on a identifié hier finalement à la fin de la conversation, c'est ce gros besoin qu'on s'occupe d'elle. Quoi.
Et donc j'ai eu ce recul sur moi-même de m'en rendre compte, de me dire tiens, c'est quand même bizarre de se sentir comme ça en allant chez le médecin alors que je devrais plutôt être... mécontent
oui,
d'être
a priori, on n'a pas envie d'y être.
Oui, exactement. Bon, et pour néanmoins le point de, si vous voulez, je commençais à me dire que j'allais finir ma vie avec ça, quoi, que j'allais avoir ces problèmes de ce point douloureux au niveau des intestins, enfin quelque chose, enfin tout ça portait des noms barbares, de colopathie, je ne sais quoi.
Colopathie fonctionnelle, c'est ça.
Oui, c'est ça, Et en fait,
c'est un grand sac dans lequel on met beaucoup de choses, ça.
Exactement. Mmh. Et alors après, on essaye d'éliminer des pistes. Alors j'ai fait des scanners, j'ai fait des échographies, j'ai fait tout ce qu'on peut imaginer. Je vous donne juste trois exemples qui concluent ce parcours médical, qui m'ont apporté une solution d'une certaine façon. J'ai fait quelque chose qu'ils appelaient un transit intestinal, quelque chose comme ça. Donc on avale un produit de contraste et on fait des dizaines de radios. Je suis allé chez le médecin que mon praticien général m'avait recommandé. Je me suis retrouvé dans un appartement parisien avec des moulures au plafond, du papier peint. Enfin, un endroit où on s'est dit, mais en fait, ça ressemble pas à un endroit médical du tout. Mais est-ce que je suis vraiment chez un médocteur, ou bien est-ce que ce monsieur derrière son engin radio est en train de m'envoyer des rayons pour rien ? Enfin bon, c'était vraiment un peu perturbant. J'ai aussi eu des expériences aux urgences, comme Audrey. Mmh. Ouais. Et notamment une sensation de coup de poignard qui m'a fait m'effondrer sur mon lit et me tordre de douleur. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Cette sensation, coup de poignard, où vraiment, je me suis effondré en me tordant de douleur. Je me suis dit, mais ça ne peut pas être dans ma tête. C'est impossible. Alors, je me suis levé, je suis allé aux urgences de la Riboisière. Ça a été un grand moment de... Je crois que j'ai grandi ce jour-là, puisque... Déjà, je pense que pour, parce que je pense qu'elle aussi avait l'envie d'aller aux urgences. Et souvent, je pense que, je ne sais pas ce que vous en pensez, Sabine, mais je pense qu'une bonne méthode, c'est que grosso modo, si on peut soi-même se rendre aux urgences, c'est qu'on en a pas besoin. Enfin, je crois que c'est une bonne méthode pour se calmer, puisqu'en tout cas, moi, je suis allé aux urgences à pied. Et donc, forcément, on tombe dans les cas surtout pas prioritaires par rapport à tout ce qu'on peut voir passer dans un endroit comme ça, dans un hôpital parisien. Et je suis ressorti après examen par un médecin fatigué et du coup qui en a été extrêmement brutal. L'examen a vraiment été brutal, hein. Je ne rentre pas dans les détails, mais bon, grosso modo, j'étais devant un médecin d'urgence en train de lui dire que j'ai mal au ventre. J'ai senti que je n'étais pas bienvenue.
Oui, bien sûr.
Et je suis ressorti avec une ordonnance pour de l'efferalgan.
Hier, on parlait de l'Iprane, c'est bien aussi l'efferalgan.
Oui. C'est particulièrement humiliant quand même d'avoir fait tant d'attentes dans un hôpital, avoir des gens qui sont vraiment en très piteux état et de ressortir avec une ordonnance pour de l'efferalgan. Je pense que la volonté d'être, la volonté de ce médecin en faisant ça, c'était quand même assez clair. Donc, je vous en parle aussi avec une certaine distance aujourd'hui, mais sur le moment, c'était quand même particulièrement déprimant, vexant, blessant, c'est une gifle. Mais je pense quand même que l'humiliation suprême, et qui est la fin de ce parcours médical, ça a été la coloscopie. Donc je pense que vous connaissez ce qui se passe dans les hôpitaux avec ces fameuses robes ouvertes dans le dos, etc. Enfin, ça n'a vraiment rien d'agréable.
L'intimité devient un vieux souvenir.
Exactement. Surtout dans le cas d'une coloscopie où il faut avaler des seaux de produits de préparation ou je ne sais quoi. Enfin, donc avant, c'est quand même, je crois, 4 ou 5 litres à avaler dans des espèces de... Enfin, c'est une espèce de torture, en fait. C'est vraiment une torture. J'ai fait cet examen après cette préparation un peu sur le registre de la torture, cette séance, ce passage en clinique qui était vraiment très humiliant, pour que le gastro-entérologue s'asseye sur le bord de mon lit au terme de l'examen après une anesthésie générale en me tapotant sur le front. Mais vraiment un geste qui était particulièrement blessant encore une fois. Il m'a tapoté sur le front en me disant « il n'y a rien, c'est dans la tête ». J'ai été dans un état de fureur absolue.
J'imagine, oui. Parce qu'une partie de vous savait probablement profondément que c'était vrai.
Et exactement. Exactement. Je crois qu'à partir de là, quand j'en étais arrivé à ce point-là, après avoir traversé tout ça, parce que bon, je vous ai fait en quelques secondes le balayage du sujet, mais ça s'est étalé sur 4-5 ans, hein, ces divers examens, analyses, je crois que j'étais arrivé au bout de quelque chose. Et j'étais bien sûr très en colère, et je n'ai plus jamais eu ces douleurs. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais vraiment, avoir traversé tout ça, pour ça, je crois que j'ai fini par me dire, ça n'en vaut pas le coup.
Vous avez quelque chose à lâcher ce jour-là.
Exactement, ouais. Je me suis dit, ça ne peut pas. Enfin, je suis allé au maximum de ce que je pouvais supporter avec ce truc. Et à la fois, j'étais un peu remonté contre tous les médecins que j'avais pu voir et leur attitude vis-à-vis de moi et toute leur étrangeté et toutes ces choses auxquelles on peut être confronté quand on fait un parcours de soins un peu dont on a l'impression qu'on ne va jamais sortir. Et en même temps, j'ai fini par me dire, peut-être que je n'ai pas tellement fait tout ça pour ma santé physique, mais juste pour... finalement, l'intérêt de tout ça aurait peut-être été de me convaincre que j'allais pas si mal que ça.
Et surtout que si c'est vous qui aviez construit ça, vous pouviez le déconstruire.
Je pense. Alors c'est vrai que je l'ai subi ce parcours, hein, donc ça n'a pas été quelque chose que j'ai fait. Hein, j'ai pas fait du yoga, de la sophrologie. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai pas une solution magique à donner à Audrey en disant j'ai fait ça et tout de suite c'est allé mieux. Mais je crois que j'ai aussi été dans un parcours médical compliqué. J'ai aussi eu cette sensation que je n'allais jamais m'en sortir. J'ai aussi traversé des doutes en me disant « mais c'est pas possible, je dois avoir quelque chose, il faut que j'aille aux urgences ». J'ai vu des médecins qui m'ont dérangé, humilié, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et ça s'est arrêté. Et depuis, je pense que cette coloscopie, ça devait être 2007 ou peut-être 2008. Donc ça fait entre 12-13 ans, plus rien. Ces douleurs ont disparu comme elles étaient venues. Et du jour au lendemain. Donc
Et ça vous a appris beaucoup de choses sur vous aussi.
Je pense. Et notamment, ça m'aura appris que moi qui ne m'étais jamais vécu comme stressé, je ne m'étais jamais vécu comme quelqu'un d'anxieux, de nerveux. Oui, alors bon, oui, j'étais un peu solitaire, un peu déprimé, tout ce qu'on veut, enfin, on pourrait en parler, mais jamais on m'aurait dit « t'es quelqu'un de stressé ». Et puis surtout, les médecins qui me disaient « c'est le stress », j'avais envie de leur dire « ben vous, vous êtes des charlatans surtout ». Mais en fait, ben, face à l'évidence de l'accumulation d'épreuves et face aux efforts que j'avais faits pour accumuler ces preuves, j'ai fini par me dire ben, il n'y a plus que ça, quoi. Il n'y a plus que ça et il faut que je l'accepte. Et donc non, le stress, ça prend des formes.
Ça prend mille formes, oui, ça prend mille formes.
Voilà, comme vous lui aviez dit, ça n'est pas que l'estomac noué ou le cœur qui bat. Et je pense qu'effectivement... pour ma part, et bon, pour elle, je ne sais pas, peut-être qu'il y a aussi une cause biologique derrière, je ne suis évidemment
oui,
pas médecin.
Il y a d'autres choses à voir avec elle. En tout cas, c'est intéressant votre témoignage et de comprendre qu'effectivement, le stress prend mille formes et qu'on ne peut arriver à s'en débarrasser. Merci David, en tout cas, d'avoir pris le temps d'appeler pour nous parler de ça. C'est toujours
si
intéressant d'avoir le mais oui, c'est, vous le savez vous-même, le parcours des uns et des autres est toujours très enrichissant. Parce qu'on pioche dans chaque témoignage quelque chose, souvent. Comme vous le dites vous-même sur Audrey hier, c'est vous qui aviez pioché. Et aujourd'hui, c'est sûrement des auditeurs qui piochent dans votre histoire des petites choses.
Tout à fait. C'était mon idée en vous appelant, en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir, David.
Au revoir.
Notre émission se termine en douceur. Merci à tous d'avoir été là avec des témoignages différents, mais tout aussi poignants. Merci beaucoup à Francine, évidemment, qui a illuminé cette soirée. Merci à vous pour tous vos SMS. Je vous retrouve demain soir à partir de 23h avec le même plaisir pour de nouvelles confidences et de nouveaux échanges. Et je vous quitte avec cette phrase du jour qui colle bien à la libre antenne. On peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule sans en abréger la vie. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. Passez une bonne nuit et à demain.